love you, Papa.
Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui a bien évolué. On est passé de deux petits gars qui habitaient dans une chambre à 200$ à maintenant des papas, des pères de famille responsables. Je suis Stan de MarketingMania.fr.
Je suis Paul.
Aujourd'hui, on parle de devenir parent. Donc moi, ma fille est née l'an dernier, elle a maintenant 15 mois. Toi, tu as eu un fils cette année, donc on est tous les deux papas.
Qui a 2 mois. Donc tu as 7 fois mon expérience. Je me référais comme à ta sagesse.
Je vais parler 7 fois plus.
Mais ça, je pense qu'il y a intéressant, c'est un peu step back, c'est qu'on a commencé le podcast, on pouvait tous deux sortir des études. On débutait sur Internet, dans notre vie active de façon générale. Moi, j'ai l'impression d'être à peine adulte, tu vois. Et donc là, tu vois le temps qui n'est pas si long. 5 ans, ce n'est pas énorme. Et en 5 ans, tu te retrouves papa. Je trouve ça assez marrant à penser. Du coup, je trouve que ça donne aussi une certaine valeur aux épisodes enregistrés à l'époque, quoi.
Non, je pense que c'est assez cool, c'est assez rare de pouvoir avoir un historique comme ça en temps réel. Tu vois, les gens ont tendance à raconter leur histoire à posteriori, mais c'est vrai qu'à posteriori, tu ne te souviens pas exactement de tout. Notamment, tu vois le passé par rapport à ce qui est important pour toi aujourd'hui. Nous, on a un petit peu cette archive de l'évolution. Les gens peuvent voir un petit peu comment on a évolué et comment est-ce que ça peut te transformer de faire cette carrière sur plusieurs années. Moi, je veux dire que je pense que dans le passé, je n'imaginais pas que je finirais par avoir un enfant aussi jeune, même si je ne suis pas si jeune que ça. Hein. Moi, maintenant, j'ai 29 ans, donc quand ma fille est née, j'en avais 28. C'est juste que moi, mes parents m'ont eu assez tard.
Mais ce qui est relativement jeune, moi, quand j'ai regardé les stats pour les hommes en France, premier enfant, je crois, c'est 34 ans.
Ah ouais ?
Et pour les femmes, c'est 31 ans, donc c'est assez élevé, en fait. C'est la moyenne, okay. J'étais surpris, en fait. Quand tu regardes dans les classes économiques, sociaux, comment ça s'appelle ? Sous-professionnels supérieurs, c'est encore plus haut, quoi. Moi, je connais personne à qui j'étais à l'université. Enfin, quelques filles, mais aucun mec, par exemple, qui a un enfant maintenant, quoi. Donc, c'est relativement tôt.
Et moi, pareil, tu vois, mes parents m'ont eu assez tard. Donc, j'avais toujours un peu cette notion qu'avoir un enfant, c'est plus que ce que tu faisais. On faisait entre 35, 34. Finalement, c'est arrivé plus vite. Mais je pense aussi que pour nous, c'est un point dont on parle aussi sur l'accélération professionnelle, mais je pense que les deux sont forcément liés. Tu vois, c'est que c'est compliqué pour toi de te poser professionnellement. Tu ne vas pas avoir un enfant. Mais nous, on a une espèce d'accélération de passer de quasiment pauvre à là où on est maintenant. En fait, en seulement quelques années, le truc a ce qu'on a transformé et c'est totalement inversé. Ce qui fait que tu as l'impression que les choses peuvent changer beaucoup plus vite. Et moi, du coup, j'ai eu l'impression de me dire, j'ai pas non plus besoin de me préparer pendant des années à avoir un enfant, puisque finalement, j'ai jamais vraiment eu trop l'occasion de me préparer pendant des années aux changements qui se sont produits dans ma vie. Tu vois, tout semblait être plus accéléré par rapport à ce que j'aurais attendu quand j'avais 18 ans, par exemple.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi un aspect assez évident, c'est aussi que je pense être en sécurité. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'enfants. C'est qu'en sécurité financière, ça joue, je pense, beaucoup aussi. Donc, je pense effectivement le fait d'accepter le changement plus rapidement et se dire finalement on est assez adaptable et c'est rare en gros. Ça joue beaucoup et t'as, je pense aussi l'aspect si je pense si on vivotait toujours à 500 euros par mois, ce serait pas dans les plans, quoi.
Carrément. Donc, sur ce, je vous rappelle que si vous aimez Nomad Digital, c'est cool de nous laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. On va se mettre une petite musique de transition et on va arriver sur le gros de l'épisode. Si on a notre petite musique et on arrive sur l'épisode. Donc, la première question, Paul, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on veut devenir parent? C'est une question un peu, qui peut sembler un peu absurde à un certain point de vue, puisque tout le monde est entre guillemets censé le faire. Mais d'un autre point de vue, tu te dis que pour nous, c'était pas quelque chose qu'on avait forcément imaginé aussitôt qu'on était beaucoup plus jeune. Et finalement, c'était un truc qui était une décision. Je pense qu'on est un petit peu moins sujet au script traditionnel familial qu'une personne qui vit en France, par exemple. et où on se dit, à partir d'un certain âge, il faut penser à se poser, etc. Nous, c'est un peu moins. C'est-à-dire que si tu décides de jamais te poser et que tu habites en Thaïlande et que tu fais du business en ligne, il n'y a personne qui va vraiment te regarder de travers. Ce n'est pas un truc qui est particulièrement attendu.
Effectivement. Bah, pourquoi devenir parent de façon assez high level? Je pense qu'il y a aussi un concept simple, c'est qu'en tant que agent biologique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, tes seules fonctions, tes seuls instincts sont de survivre et de te reproduire. Quoi. En gros, tu existes un peu pour ça. C'est pas très spirituel, ainsi de suite, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Donc et c'est pour ça que tu t'engages dans des activités sexuelles. De base, l'évolution a fait que c'est ça.
Mais ceci étant dit, si tu regardes tes actions au quotidien, tu peux dire beaucoup d'éléments. Tu vois, tu regardes une série, tu joues à un jeu vidéo. Il y a quand même un niveau d'abstraction là-dessus qui est techniquement, c'est ça, mais dans la pratique, est-ce que c'est vraiment ça qui guide chaque action? Tu vois, il y a un niveau d'abstraction supplémentaire.
Je pense que tu peux toujours revenir un peu, tu peux toujours un peu déploter la pelote, c'est un terme, mais tu peux toujours revenir en arrière et arriver à un truc. Après, je ne suis pas assez. Mais je pense qu'il y a. Il y a quand même fondamentalement ça, c'est que survivre, premier truc. Deuxième chose, te reproduire. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit faire des enfants, ainsi de suite. C'est juste, je pense, si on parle des raisons de devenir parent, pourquoi devenir parent, il y a un peu ça qui existe quand même. Et c'est la raison. Même, je pense que la raison pourquoi il y a une pression sociale, ainsi de suite, c'est quand même fondamentalement ça. Même quand. Un truc que tu marqueras, c'est quand tu annonces que tu vas avoir un enfant, tout le monde est content pour toi. Et même moi, quand des potes disent qu'ils vont avoir des enfants, je suis content pour eux instinctivement, tu vois. Et je pense qu'il y a un aspect même un peu tribal là-dedans. C'est que c'est une bonne nouvelle d'avoir un enfant qui rentre dans ta tribu et qui est... Et donc, je pense qu'il y a ça qui est peut-être un peu trop évident à mentionner, mais qui est quand même présent, quoi.
Ouais. Donc, t'as beau être parti à l'autre bout du monde et être échappé à une partie de la pression sociale, finalement, tu n'échappes pas à la biologie qui sous-tend cette pression sociale.
C'est ça. Tu le dis beaucoup mieux que moi. Tu l'as dit en... une phrase, ce que j'ai mal raconté.
Je résume tes réflexions, tu vois, pour rebondir sur le point suivant. Donc, le point suivant que tu as noté, c'est la famille. Est-ce que toi, tu avais une pression familiale particulière à ce niveau-là?
En fait, j'ai noté la famille, mais ce n'est pas dans ce sens-là, en fait. Ce n'est pas dans le sens pression familiale. C'est qu'en fait, quand tu lis toutes les autobiographies où tu as plein d'études sur les regrets des gens quand ils sont avant de mourir, ainsi de suite, quand ils sont sur la ligne de mort... Et ce qui revient toujours, en fait, c'est l'importance de la famille, en fait. Et moi, je suis assez... moi, justement, j'y crois beaucoup à écouter ce que les gens... Toi, je ne crois pas que je suis différent. Et donc, même si la famille, je pense notamment adolescence, puis après la vingtaine, ce n'est pas ce qui est le plus important, il y a une raison pour laquelle toutes ces personnes regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leur famille, ainsi de suite, quoi. Et donc, je pense que, de façon générale, créer une famille, ça a un ROI très positif pour ton bonheur et le sens que tu trouves à la vie, ainsi de suite, quoi. Donc ça, je pense que c'est une raison de devenir parent, en fait. C'est que c'est prouvé depuis la nuit des temps qu'avoir une famille, c'est quelque chose de positif. Et donc, c'est un objectif logique. Et encore une fois, c'est peut-être un peu bas du front, mais je pense que c'est quand même... encore une fois, j'attache beaucoup quand, par exemple, tu as toutes les personnes qui assurent une mort. Un des regrets, c'est d'avoir autant travaillé et pas passer autant avec leur famille. Je pense mieux vaut les écouter, en fait. Il y a une raison pour laquelle ils pensent ça. Et tu retrouves un peu, et pareil, par exemple, tu as le bouquin que j'adore qui est Shoe Dog, donc, le fondateur de Nike, il dit que le seul regret qu'il aurait, c'est d'avoir passé aussi peu de temps avec ses deux garçons, en fait. Et c'est, de façon générale, c'est quelque chose que tu retrouves tout le temps. Et donc, construire une famille, je pense que ça. C'est à forte valeur ajoutée.
Ouais, bah moi, après, tu vois, c'est vrai que la conversation qu'on a est un peu... c'est intéressant parce qu'on essaie d'expliquer sur les premiers principes pourquoi avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est évident. Mais je pense que ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, pour nous, ces éléments-là qui sont culturellement évidents, on s'est un peu entraîné à les questionner, à se dire, c'est pas parce que tout le monde te dit qu'il faut faire comme ça, c'est parce que tout le monde fait ça qu'il faut le faire. Et en fait, parfois, en questionnant le truc sur les premiers principes, finalement, tu fais la boucle et tu reviens là où tu étais arrivé, quoi, sur le fait que, en fait, c'est vachement significatif dans ta vie d'avoir des enfants et tout. Moi, je pense que vraiment, c'était le côté de pouvoir élever une personne et pouvoir l'accompagner à partir de zéro et lui apprendre des trucs que je trouve assez fascinant. d'un point de vue fondamental. C'est l'idée de dire, t'as créé...
T'as, ouais, ouais, puis tu crées une relation unique, en fait. C'est une relation...
T'as créé quelque chose. Et maintenant, tu vois, je commence vraiment à la voir maintenant que mes filles, quand elles me voient, elles courent vers moi pour me faire un câlin. Je lui apprends des mots, des petits jeux, tu vois, des petits trucs à faire. Déjà, à cet âge-là, tu as une interaction qui permet de dire... tu vois exactement comment est-ce que tu l'impactes, comment est-ce qu'elle réagit à toi, ce que tu lui apprends. Et c'est vrai que ça, moi, c'était une vision que j'avais un petit peu. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, quand ton enfant est très petit, tu as envie qu'il grandisse pour pouvoir avoir plus d'interactions. Et à un certain point, il commence à interagir. Et à partir de ce moment-là, ça fait que augmenter, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu as tellement été habitué à des standards super bas. Genre, par exemple, tu vois, quand ma fille, elle était petite, elle avait des jouets, genre, tu sais, Sophie la girafe et tout. Mais elle était trop petite pour pouvoir les tenir. Et donc, du coup, on lui donnait un jouet, mais elle le lâchait tout de suite. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais donner un truc plus simple. Donc, je lui donne une de ses chaussettes, donc un truc super léger, je le mets sur son ventre. Et là, il va ramasser avec sa main sa chaussette. T'as et on était dingue, c'était le truc le plus ouf qu'on ait vu dans notre vie. Et en fait, comme ils sont toujours, quasiment toutes les semaines, en train de dépasser leur record, tous les jours, tu es en train de dire, waouh, elle a dit un nouveau mot. Waouh, elle a appris à faire un truc qu'elle pouvait pas faire avant, tu vois.
Et c'est ça qui est un aspect progression que j'ai pas pensé en fait, qui est assez gratifiant parce qu'effectivement il y a une progression continue, quoi.
Coûte continue et tout le temps et elle apprend les trucs et en fait t'es vraiment super fier. Tu dis mais pourquoi en fait t'es fier que ton gamin il arrive à mettre ses chaussures? C'est parce que t'as passé 4 putains d'années, ton gamin il était incapable de mettre quoi que ce soit. Donc le jour où il va mettre ses chaussures et faire ses lacets,
tu vas tout le monde.
Péter un câble. Pour toi c'est un truc d'accomplissement incroyable. Tu vois, comme si ton meilleur ami avait escaladé l'Everest, quoi. Et encore. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, plus le fait que voilà, tu peux lui apprendre des trucs et tout. Et parfois, tu lui apprends quelque chose et tu lui montres un truc. Et puis au départ, elle ne le comprend pas. Et après, elle le comprend et elle a appris et elle a appris un truc. Maintenant, notre fille, elle ouvre les portes.
Championne.
Enfin, tu vois, c'est la première fois où elle a ouvert une porte, on était dingo, quoi. Tu vois, elle a capté que c'était la poignée. Elle a capté qu'il fallait appuyer dessus et le pousser. Et maintenant, elle a appris le truc. Et quand elle a envie de te voir, elle va ouvrir la porte. Et ça, c'est vraiment un truc de satisfaction énorme. Parce que ce que les gens m'avaient dit dans les commentaires YouTube, à un endroit bizarre où tirer tes conseils, mais quand j'avais dit que j'allais avoir un enfant, c'était les gens m'ont dit « Ouais, tu vas voir, c'est beaucoup de travail, mais c'est de la joie tous les jours. » Et c'est le cas parce que tu termines ta journée, tu es chez toi, tu as bossé toute la journée, etc. Et là, tout d'un coup, t'as vraiment un truc de ouf qui se passe un peu tous les jours chez toi où c'est super, super profond, ça a beaucoup de sens. Et ça, c'est un énorme gain. Ça transforme ta journée, tu vois. C'est un peu un côté où t'as passé tout ton temps à construire ton business, mais dans ta vie, qu'est-ce que tu construis, tu vois? Si ta vie, c'est juste je fais des soirées ou je regarde des séries ou je fais des voyages, il y a un côté où c'est un peu transitoire, tu vois. Ça va et ça vient. Mais là, tout d'un coup, tu as un truc vraiment significatif que tu construis aussi dans ta vie personnelle. Ceci étant dit, tu avais listé d'autres catégories. La catégorie suivante de pourquoi devenir parent, c'était la catégorie copine.
Ouais, en fait, je pense que copine, dans le sens où nous, on n'a pas d'horloge biologique à proprement parler. Alors que forcément, une fois que ta copine commence à approcher la trentaine, je pense qu'il faut en parler, il faut se mettre clair. Parce que je pense que si ça arrive aussi, je pense que c'est très, très bâtard de dire oui ou alors de pas être clair et en fait à annoncer à la 33 ans et tu dis ah non en fait non je suis pas chaud et du coup il lui reste quelques années pour trouver la bonne personne, avoir des enfants, ainsi de suite. Je pense donc il y a un peu ce facteur aussi qui rentre en jeu, et je pense aussi qu'il y a une certaine question si t'es bien avec la personne. En fait c'est le premier prérequis et le plus long. En fait si t'es bien avec la personne, avoir un enfant ce sera pas, et encore une fois ça fait que 2 mois, donc mais je pense que c'est quand même le un peu comme on vous parlait un peu avant avec l'équipe en termes de management, c'est que c'est 90% dépend de la qualité de la relation que tu as avec la personne, quoi, avec la copine, le copain, la femme, le mari.
Donc, ce que tu dis est plus profond que ça en a l'air, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est en gros, tu as une timeline où tu es obligé d'en parler assez tôt, et une fois que tu en as parlé, que tu as pris cette décision ensemble, que tu voulais avoir des enfants, la question c'est ben, pourquoi on attend, quoi, on attend pourquoi. Donc, si tu te dis j'ai la bonne personne, j'ai les ressources financières, c'est un truc que j'ai envie de faire. Et quelle est ensuite ta justification de dire j'ai envie de le faire, mais dans 5 ans? Qu'est-ce qui aura changé dans 5 ans? Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée. C'est en gros, qu'est-ce qui va changer? Bah, rien. Et que si tu as envie de faire quelque chose dans ta vie, autant le faire plus tôt qu'attendre. tu sais jamais ce qui peut se passer entre deux, tu as des problèmes particuliers ou simplement bah, tu auras 5 ans de moins avec ton gamin parce que tu auras attendu 5 ans pour aucune raison. Donc à un certain point, c'était intéressant de se dire, dans ma tête, j'ai toujours pensé que ça allait arriver plus tard, mais si j'y réfléchis, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est la personne avec qui j'ai envie de le faire. Donc finalement, autant le faire maintenant. Et c'est vrai que si tu n'avais pas ce côté un peu de, entre guillemets, d'urgence où tu pouvais le faire n'importe quand, voilà, c'est un peu comme les gens qui ont un boulot et qui veulent lancer un business versus les gens qui sortent de leurs études et doivent lancer un business pour survivre. Il y a un côté où tu as une urgence ou tu n'as pas d'urgence. Tu vois. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a quand même un certain facteur d'urgence qui n'est pas immédiat. Tu as toujours des années pour voir venir, mais il y a un certain facteur d'urgence qui fait je ne vais pas non plus laisser traîner le truc pendant 5 ans ou pendant 10 ans.
Je suis d'accord. Tout à fait d'accord.
Tu as noté ensuite la raison de vivre. C'est un peu ce que je pensais tout à l'heure sur le côté de... Ça te donne l'idée que tu construis quelque chose. Je pense que pour nous qui avons l'habitude de construire un truc dans notre business, tu vois, est-ce que tu serais satisfait de travailler dans un boulot où rien n'évolue, où rien ne se construit, où tu fais chaque jour le même travail que la veille? Je ne pense pas. Et dans certains points de vue, tu vois, tu peux te dire, tu peux te projeter et te dire, est-ce que dans 10 ans, j'ai envie de vivre exactement comme je le fais aujourd'hui et rien n'a changé et j'ai le même train de vie et la même routine? Je sais pas, tu vois, il y a un côté de dire, bah, j'aurais perdu 10 ans, quoi.
Il y a aussi un aspect que ça donne notre raison d'anticiper le futur, en fait. C'est que tu as profondément envie de voir à quoi va ressembler ton enfant, comment il va évoluer. Toi, ça te donne vraiment une raison énorme. Et moi, je l'ai remarqué que c'était même pas, avant d'avoir mon enfant, c'était même les enfants des autres. J'ai une curiosité incroyable pour savoir ce qu'ils vont devenir, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, ça te donne une raison d'être excité, d'être enthousiaste à propos du futur, quoi. Et de vouloir être là, tout simplement.
Et il y a un côté qui n'est pas vraiment une raison de devenir parent, mais qui est plus une conséquence. Tu l'as noté toi dans les avantages, mais c'est que tout d'un coup, ta timeline sur laquelle tu prends des décisions et tu réfléchis s'élargit largement. Parce qu'au départ, c'est compliqué quand tu es tout seul de prendre des décisions sur plus que quelques années au final. Tu vois, c'est un peu abstrait de dire une décision pour dans 5 ans ou pour dans 10 ans. Mais tout d'un coup, à partir du moment où tu as un enfant, assez naturellement, tu as une timeline de dans 15 ans, qu'est-ce que je ferai ?
De 18 ans minimum, la timeline, si ça se passe bien. De 30 ans, si.
Ouais, c'est ça, 18 ans minimum. Mais en gros, la question de qu'est-ce que je vais faire dans 15 ans, elle se pose. Parce qu'en fait, tu vois, c'est difficile de t'imaginer toi dans 15 ans et à quoi tu vas ressembler. Mais tu peux imaginer à quoi ressemble un enfant de 15 ans que tu vas avoir, tu vois. Dans 15 ans, bah, ma fille, ça sera une ado. Elle aura probablement... des amis, elle ira au lycée, elle aura des intérêts X ou Y, tu vois. Donc, du coup, je peux me projeter plus facilement sur 15 ans et ce que j'aurais besoin de faire et là où j'aurais besoin d'être, versus si tu es absolument tout seul. C'est compliqué de pouvoir te projeter sur cette timeline, je trouve.
D'accord. Et une autre raison que j'ai mis, qui est, je pense, assez qui est exactement ce dont on devrait parler, je pense, à ce podcast, c'est que, en gros, le nomadisme digital, c'est orienté quand même de façon très forte vers l'optionnalité. En gros, ne prendre le moins de responsabilités possible et le moins de contraintes possible pour être le plus libre possible. Donc, libre en termes de lieu, de temps, de ce que tu fais, ainsi de suite. Et avoir un enfant, c'est un peu l'opposé, quoi. C'est que ça, forcément, ça te limite, ça te contraint. Mais je pense que c'est un peu un choix qu'on a fait et auquel tu arrives assez naturellement. C'est que, au final, les responsabilités, ça a aussi l'avantage de donner du sens de façon globale. Et je pense que tout le monde arrive un peu à cette réalisation à un moment ou à un autre. Et donc, être totalement libre, un peu au sens propre du terme, ça c'est kiffant, ça a son fun. Mais c'est qui dit tout le temps ça, quoi, qui dit tout le temps responsibility gives meaning, je sais plus qui. Mais je pense que ça, c'est vrai, quoi.
C'est pas et Joko Willink.
C'est possible que ce soit lui.
Ou c'est Jordan Peterson.
C'est aussi possible. Et l'enfant, c'est une énorme responsabilité. Mais tu ne feras pas beaucoup de choses qui ont plus de sens aussi, quoi. Et donc, accepter cette responsabilité et pas la... Il y a un moment où tu arrives, où tu es prêt à l'accepter et tu m'aimes là, tu la welcome, quoi. Elle est bienvenue, quoi. Et c'est pareil, le fait de s'installer quelque part, avoir une copine, une femme, de quelque chose de long terme, ainsi de suite, c'est que finalement, on s'est quand même beaucoup restreint notre liberté. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on l'a fait par choix. Je pense que c'est quand même assez notable. Mais le trade-off et l'avantage que t'en tires, c'est cet aspect sens de la vie, quoi, de façon un peu grandiloquente.
Ouais. Non, mais je pense que c'est un élément en contraste avec le nomadisme digital, c'est l'idée, tu sais, c'est toujours devenez libre grâce à votre business. C'est souvent le bénéfice numéro un, c'est la liberté, parce que c'est ça que les gens veulent quand ils sont dans un job. Et en fait, tu découvres que c'est pas genre un axe que tu veux maximiser nécessairement. Le but de la vie, c'est pas de maximiser ta liberté et d'avoir aucune contrainte. Non, si, mais si tu imagines une personne qui a aucune contrainte toute sa vie, genre une personne qui a hérité beaucoup d'argent et qui a juste rien à faire et qui a aucune pression externe, quelle qu'elle soit, t'as pas forcément envie d'être cette personne, en fait. Tu dis, cette personne va pas forcément accomplir quoi que ce soit, va pas forcément se structurer, se pousser, et finalement, elle va flotter un peu à droite, à gauche, dans l'hédonisme, et finalement, c'est pas l'idéal. Donc, il y a un certain degré de liberté qui est souhaitable, mais c'est pas la liberté maximale ni la liberté minimale.
Et je pense qu'il y a aussi un besoin d'être utile, en fait, qui est aussi qui rentre en jeu. Si on revient un peu en corner, même la biologie, je pense aussi un peu, c'est une tribu. Si tu es totalement inutile dans une tribu, tu commences à être un peu inquiet, tu vois. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue, où tu te dis, il faut que je sois utile, il faut que j'aie une valeur pour quelqu'un. Et donc, c'est un peu le même thème. Ouais.
Il y avait un modèle mental que j'aimais bien, qui était partagé par un blogueur qui s'appelle Taylor Pearson. C'était de dire que les gens pouvaient être orientés vers trois dimensions différentes et pouvaient avoir des priorités. La première, c'était le plaisir. Le deuxième, c'était le pouvoir et le contrôle, etc. Et le troisième, c'était le sens. Et que certaines personnes sont orientées vers le plaisir et veulent voilà, faire la fête et veulent sortir avec des gens et veulent aller à des restos et sont vraiment dans ce truc de vivre leur vie sous cet angle-là. Des gens qui sont dans le contrôle, construire un empire, avoir le pouvoir, avoir la liberté, que personne ne leur dise quoi faire. Et il y a des gens qui sont plus dans le côté « je veux que ce que je fasse, ça ait du sens », etc. Et dans la mesure, je pense, sur lesquelles tu es équilibré sur ces trois éléments, tu vas découvrir que ça a du sens ou non d'avoir un enfant. Tu vois, je pense que si tu es à 100% dans l'hédonisme et vivre ta vie à fond à ce niveau-là, je pense qu'avoir un enfant, ce n'est pas pour toi. Parce que ça va toujours être quelque chose qui va être en tension par rapport à… Tu vois, tu peux pas faire les voyages que tu veux, comme tu veux. Tu peux pas faire les soirées que tu veux, comme tu veux, etc. Mais si tu es plus dans l'idée de cette quête de sens et de te dire voilà, à quoi est-ce que tout ça s'additionne, si tu es plus la personne qui rentre de soirée et qui est un peu en mode « putain, mais… » Enfin, tu vois, je sais pas, moi j'arrivais souvent, je me dis « mais en fait, c'était quoi le sens de ce que je viens de faire ?» Tu vois, enfin, ça servait à quoi ? Je suis arrivé, j'ai rien fait, il n'y a rien qui a été accompli de A à Z.
Ça met une crise existentielle à chaque…
Chaque fois que je rentre chez moi, de quelque part, je suis en crise. Non, putain. mais plus ou moins, tu vois, tu te dis, mais… Enfin, tu vois, qu'est-ce que le temps que je viens de passer à contribuer ? Et donc, du coup, je me suis aperçu que j'étais assez orienté vers ce côté de sens et de me dire que je voulais avoir l'impression que ce que je fais, ça construit quelque chose. Et donc, du coup, tu arrives sur cette idée de, ben, évidemment, que tu as envie de construire le côté familial et que c'est un truc qui est assez irremplaçable. Tu ne peux pas vraiment faire d'équivalence entre combien de business tu as besoin de lancer pour compenser le fait que tu n'as pas eu un enfant. Tu vois, il y a monnaie d'échange.
Et pour reparler de Shoe Dog et Finite, le fondateur de Nike, son fils est mort relativement jeune, je crois, il a trentaine, un truc comme ça. Et clairement, il dit, j'aurais tout donné, quoi. J'aurais tout redonné, tous les milliards, reprenez tout pour que mon fils soit en vie. Donc, ça montre encore une fois la force. Et même pour nous, on le ressent comme ça, tu vois. T'es là, bon, bah, je lâche tout mon business, je m'en bats les couilles, tu vois. Et donc, quelque chose qui crée un sentiment aussi fort, forcément, le pendant de ça, c'est que ça a aussi créé un sens énorme, ce qui est assez logique.
Donc, tu as noté ensuite la volonté de transmission.
Je ne l'ai pas mis celle-là, mais moi, c'est un truc assez fort. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a des volontés de transmission assez différentes. Par exemple, ma copine, elle est impatiente de lui faire essayer certaines nourritures. Moi, je suis impatient de regarder certains films, lui recommander certains livres, ainsi de suite. Et je pense que c'est à deux niveaux. C'est, du coup, il y a un peu une transmission biologique, dont on parlait avant de l'ADN. Et aussi de la transmission, tu as une volonté de ce que tu as appris. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait avec ce podcast, hein, d'une certaine manière. Sauf que, voilà, finalement, les enfants, ils sont un peu captifs, toi, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de t'écouter. Et il y a un peu cet aspect de transmission et te dire que tu as quand même appris des choses dans cette vie jusqu'ici. Tu penses aussi, je pense qu'il y a un petit côté où tu penses que tu peux faire mieux que tes parents.
Mais je pense que dans certains sens, les auditeurs du podcast vont prendre nos conseils plus à cœur que nos enfants.
Mais je pense qu'il y a aussi un petit côté aussi, tu dis que tu peux faire mieux que tes parents, c'est un…
Ta gueule, papa. Non, arrête de me parler du stoïcisme.
C'est exactement ce qui va se passer. Hein, c'est...
Je vais lire Jean-Paul Sartre à la place.
L'existentialisme, c'est mon truc. Mais je pense que c'est un peu la volonté de transmission. Il y a aussi un peu un aspect rédemption. Je pense aussi qu'on forcément, tu dis, tu vois ce que tes parents auraient pu faire mieux ou pas très bien fait de ton point de vue, et tu dis, bah ça, je vais le faire mieux, tu vois. Et donc, t'as ces deux aspects qui rentrent en compte aussi dans la volonté de guider une personne, quoi. Ce qui est, ouais, on t'en parlait avant, c'est que tu guides une personne, c'est quand même une opportunité incroyable. T'as une influence sur la. Et du coup, ça peut paraître un peu mégalo de ce point de vue, mais t'as une influence monstrueuse et unique sur une personne. Et l'idée, c'est que si tu le fais bien, tu peux faire quelque chose de vraiment incroyable, quoi. Donc, ouais, c'est un peu ça aussi, je pense, qui rentre.
Ouais. Au niveau des conseils qu'on avait pour les gens qui vont avoir des enfants, il y en a une qui est peut-être un peu particulière aux gens qui habitent en Thaïlande ou dans un pays similaire, c'était l'important de recruter une nounou ou quelqu'un pour t'aider.
Ouais, effectivement, si c'est pas nounou parce que t'as pas les moyens ou que c'est compliqué, ainsi de suite, au moins, même si t'aimes pas trop ta belle-mère, je pense que si... En fait, le problème fondamental, c'est que ça peut rapidement partir en couille parce que si tu commences à perdre ton sommeil, généralement, moi, c'est vraiment le cas pour moi, c'est le cas par exemple chez les gens. Une fois que le sommeil part, tout part, toi. Après, ça se casse un peu la gueule. Donc, si tu arrives à avoir quelqu'un qui peut couvrir une partie des nuits et que tu peux avoir un sommeil correct et tu arrives à maintenir ça, pour moi, c'est une priorité absolue. Je pense que c'est aussi partiellement important. Ça peut aussi beaucoup aider du côté de la femme. Donc, en termes de qualité de vie, une nounou ou un membre de la famille, quelqu'un qui peut aider. C'est énorme, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont deux aspects, qui ont un peu un hubris en disant « nous, un peu le challenge, non, nous, on pourra le faire sans aide », ainsi de suite. Il y a un peu cet aspect-là. Et les quelques cas que j'ai vus, généralement, c'est 3 semaines après, c'était à l'aide. Et le second aspect, je pense, qui est aussi un peu une notion sacrificielle, en fait, où tu dis « ça a plus de sens si je me sacrifie ». Et moi j'y crois moyen parce que finalement moi je sais hein, si je dors pas j'ai très mauvaise humeur donc je pense que sacrificiel oui avoir un peu de sacrifice soit que changer quand même des couches je vais y mettre un peu du sien mais rapidement c'est le trade-off est pas si intéressant que ça quoi.
Moi je veux dire que j'étais assez anti nounou au départ notamment parce que moi dans mon cas c'était ma belle-mère à l'origine qui était avec nous pendant assez longtemps, parce que ma fille est née aux alentours du moment où Covid a commencé, donc en fait, elle était venue avec nous pour la naissance, et finalement, elle s'est retrouvée à rester plus longtemps que ce qu'elle avait prévu à l'origine, mais du coup, c'était bien, elle était avec nous, elle nous aidait, tu vois, c'est une membre de la famille, et elle sait, mais du coup, j'avais vraiment une résistance, et j'étais assez négatif sur l'idée de prendre une personne qu'on ne connaissait pas, tu vois, de venir, tu vas prendre une personne qui ne connaissait pas et qui va s'occuper de ton enfant à ta place. Surtout qu'à ce moment-là, elle dormait, tu vois, donc la question du sommeil était passée. Mais finalement, on l'a fait notamment parce que ma belle-mère est repartie du pays. Et c'est vrai que rétrospectivement, j'avais des blocages psychologiques là-dessus. Je sais pas, tu vois, moi, j'ai jamais grandi avec une nounou. Enfin, je me dis, mais depuis quand est-ce que je suis devenu un bourgeois qui a des nounous pour s'occuper de ses gamins? Enfin, tu vois, pour moi, c'était assez impensable et j'ai pas tout grandi dans cette culture et ça aurait été un truc totalement différent. Ce qui fait que j'avais un certain blocage là-dessus. Mais si tu réfléchis sous un autre point de vue, c'est vrai que dans ce proverbe, tu vois, il faut un village pour élever un enfant. Dans
et l'humanité, avant, c'était un couple seul qui s'occupait.
C'est jamais un couple qui s'occupait d'un enfant. C'est pas naturel, c'est compliqué. Enfin, tu vois, les éléments simples, c'est que s'il y a une seule personne qui s'occupe d'un enfant, en fait, cette personne, elle peut pas aller aux toilettes, tu vois. Elle peut pas se faire à manger, elle peut rien faire, aller dessus. Constamment, surtout à partir du moment où l'enfant commence à pouvoir marcher. Donc en fait, tu as besoin d'avoir au moins deux personnes qui se relaient et d'avoir un système. Donc, ça peut être un système familial, ça peut être un système de voisins dans un village, ça peut être quoi que ce soit. Mais j'ai réalisé que pour le coup, dans notre situation, ça a du sens aussi de pouvoir avoir des gens que tu recrutes et qui viennent t'aider à la maison, que ce soit en faisant le ménage, mais quasiment en s'occupant aussi de l'enfant et voilà, que ça permet aussi à l'enfant de voir d'autres personnes que ses parents, c'est pas mal. Donc moi, j'ai changé de fusil d'épaule là-dessus, tu vois, j'avais pas mal de blocages à ce niveau-là et j'avais un a priori très négatif sur cette question et finalement, j'avais tort.
Et après, l'autre aspect enfin, qui est sacrificiel, mais qui est aussi un peu, je pense un peu, c'est que les parents qui l'ont fait sans nous, sans aide, ils ont un peu un côté, ils veulent aussi un peu que tu galères. Toi, il y a un petit côté aussi, je pense qu'ils jouent aussi là-dedans. C'est que un peu le faire de la même façon. Ça me rappelle les où ils avaient fait un référendum pour continuer ou pas le service militaire à Singapour. Et en fait, tous les jeunes, ils votaient non, on arrête. Et comme par hasard, tous les vieux, ils votaient oui en disant, nous, on y allait, pourquoi pas vous, quoi. Et je pense que c'est un peu cet aspect qui joue aussi. Donc, ouais. Mais moi, je le recommande, ne pas sur... Même ma copine qui culpabilisait beaucoup au début par rapport à ça. Parce qu'effectivement, tu as un peu d'outsourcé, un peu côté mercenaire. Toi. Tu délègues à quelqu'un comme ça, random, de s'occuper de ton enfant. Mais je pense que ça peut être bien fait, que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et le deuxième conseil que j'ai mis, et je sais pas, tu pourras me dire ton expérience, je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais moi je dis souvent qu'il raconte qu'en gros, au moment de la naissance, en fait la personne, et notamment la mère, mais aussi le père, ont senti un amour comme ils n'avaient jamais ressenti avant, toi. Un truc vraiment fulgurant, toi c'est... Et moi j'ai pas eu du tout ça. Ouais, c'est, à la naissance, c'était plutôt de l'anxiété, j'ai pas senti ce lien. Et je me rappelais qu'on a fait une birthing class où la femme conseillait vraiment au père au début de passer beaucoup de temps avec le bébé, de changer des couches, même quand elle n'interagit pas avec toi. Effectivement, en fait, si tu passes beaucoup de temps au début, tu as ce lien qui se crée, et maintenant ce lien est très fort, en fait. Et je ressens un peu ce qu'on décrit, un peu les clichés, un amour qui est incomparable, ainsi de suite. Mais moi, ça ne s'est pas déclenché comme ça à la naissance. Donc, je dirais que, notamment pour les pères, où je pense que ça peut être un peu moins évident, si ça ne se déclenche pas à la naissance comme ça, ce n'est pas non plus un... C'est pas dire que vous n'allez jamais aimer votre enfant, il faut peut-être juste passer du temps au début avec lui et créer ce lien-là, quoi.
Bah, je dirais, à naissance, ce que j'avais, c'était un sens assez terrifiant de la fragilité de l'enfant, tu vois. L'impression que quand elle dort, tu dois écouter sa respiration.
Tu poses ta main dessus pour vérifier qu'il respire bien, qu'il respire toujours.
Quand tu es en train de la transporter de l'hôpital à chez toi, tu es en mode... t'as l'impression d'être un soldat américain dans la jungle du Vietnam avec des dangers partout qui sont autour de toi. T'es en mode, putain, il y a un gars qui marche sur le trottoir, faut que je fasse attention à ce qu'il la cogne pas et tout. Enfin, t'es en mode 2000%. Et du coup, c'était un peu... moi, c'était cette idée-là, tu vois, de la fragilité du bébé qui était dominant et de se dire il faut s'occuper à fond. Tu vois, c'est un truc très protecteur, en fait, au départ, pour moi. La manière dont je l'ai ressenti.
Moi, c'est un peu ça, c'est un peu une anxiété, en fait, effectivement, par rapport à ma nouvelle responsabilité, effectivement, l'aspect protecteur, en fait, t'es responsable pour cette nouvelle vie. Et du coup, est-ce que toi, c'est pareil? Est-ce que c'est avec les premières semaines, t'as passé du temps où c'est ce lien un peu s'est créé? Même pour certains pères, ça passe, pour certains pères, il faut même attendre l'interaction, en fait. Ça vient à ce moment-là.
Alors pour moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais la première à le voir parce qu'elle est née par césarienne, donc c'est moi qui l'ai vu pour la première fois, tout nettoyé et tout. Et c'est vrai que non, j'ai ressenti un truc directement à ce niveau-là, mais à un point où je n'osais même pas trop la toucher, tu vois. Enfin, tu vois, ce côté fragilité, etc. Ce n'était pas la même relation que je peux avoir maintenant où c'est plus une personne, tu vois, avec qui je peux interagir, avec qui je peux traiter un petit peu plus d'égal à égal. Là, c'était... Moi, j'ai ressenti quelque chose, mais c'était vraiment, tu vois, aussi un côté très fragile et un peu une peur de ma part de trop la toucher à l'origine. Et je pense que j'ai commencé à la tenir. Bon, de toute manière, quand elle vient de sortir, tu ne la prends pas parce qu'elle est encore sous surveillance médicale. Mais tu vois, j'ai commencé vraiment à pouvoir la porter que quand on m'a un peu incité à le faire, tu vois. Alors, au départ, je n'osais pas trop.
Ouais, qu'on te montre aussi comment bien tenir le coup. Et
ouais, ouais.
Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils, Stan, de ton côté?
Je pense qu'un conseil pour les gens qui sont dans des couples avec différentes langues, moi, je me suis pas mal renseigné sur l'apprentissage des langues, et essentiellement le gold standard à ce niveau-là, c'est OPOL, donc One Parent, One Language. Donc c'est l'idée que toi, tu lui parles qu'en français et ta femme lui parle qu'en anglais, enfin, dans mon cas par exemple, de manière à ce qu'elle puisse apprendre les deux. Donc l'idée ici, c'est que les enfants vont apprendre les mots au fur et à mesure, mais vont aussi apprendre les sons. Et c'est pour ça qu'une personne qui n'a pas grandi, par exemple, dans la culture chinoise peut avoir du mal avec certains sons et certains tons. Et idem, tu vois, les gens qui n'ont pas grandi en France, ils peuvent avoir du mal avec le son E. Parce qu'en anglais, tu n'as pas le son E. Et en fait, c'est important qu'ils écoutent ces sons-là. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu, si tu es dans un couple avec deux langues, que chacun lui parle sa langue. Et ensuite, ça permet aussi à l'enfant de séparer, puisqu'il ne peut pas comprendre le concept du français et de l'anglais, mais il peut comprendre le concept de la langue de papa et la langue de maman. Et c'est plus facile de l'ancrer via des personnes. Et en l'occurrence, si tu as une nounou thaï, tu as une troisième langue potentielle. Ça, ouais.
Après, le problème, je pense, c'est qu'il y a... c'est un bordel, mais je pense qu'il y a aussi le problème de imbalance, en fait, c'est créé parce que comme tu parles avec ta femme en anglais, donc je pense qu'il y a forcément l'anglais va quand même peser plus. Généralement, c'est ce qui se passe plutôt quand même, c'est que tu as du coup... Du coup, il faut s'accrocher, je pense, pour le français. Faut pas lâcher l'affaire.
Moi, ça me va très bien que l'anglais domine et soit la langue maternelle. C'est littéralement la langue maternelle. Mais tu vois, c'est important qu'elle puisse parler français de manière parfaite. Donc, voilà, à partir du moment où c'est présent, à partir du moment où tu apprends, il y aura pas de souci. Tu vois, je pense que le challenge se posera plus sur les années suivantes, par exemple, au moment de la lecture. Je pense qu'une chose qui t'apprend aussi le français est structuré, c'est beaucoup lire en français. Ça sera, tu vois, un autre aspect, puisque nous, on n'a fait que lire en français. Mais finalement, même en lisant en anglais sur le tard, tu t'en sors très bien et finalement, tu arrives à lire en anglais aussi bien. Tu vois. Donc, je pense que c'est le conseil que moi, j'ai lu qui était important en termes de langue. Sinon, après, tout le reste, c'est assez générique par rapport à ce que les gens ont pu voir ailleurs. Au niveau des avantages, on en a cité pas mal tout à l'heure.
C'est là où on vous vend le fait d'avoir un enfant.
On vous vend un peu le rêve. Qu'est-ce qui, toi, t'as le plus marqué ou qu'est-ce qui t'a le plus surpris au niveau des avantages que t'as ressentis à devenir papa?
Un des avantages, je pense, c'est, on a déjà parlé, c'est expérience incomparable, en fait. Ou forcément, on te dit que c'est une expérience incomparable, mais t'as un peu toujours le tout dans l'esprit. Tu dis, ça se trouve, les gens disent ça parce que t'as l'impression que c'est sunk cost fallacy, toi. Ils sont déjà commit. il faut bien qu'ils justifient maintenant qu'ils ont des enfants, qu'ils justifient leur choix. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incomparable, en fait. Maintenant, il commence à beaucoup sourire. En fait, quand il sourit, il y a quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer et qui est totalement unique, que tu retrouves nulle part ailleurs. Quoi. Et il y a une forme clairement d'amour qui est aussi totalement unique et qui, notamment, je pense, beaucoup plus forte, je pense, que celle que tu peux avoir pour tes parents, en fait. Je pense qu'il y a un déséquilibre. Mais en gros, typiquement, t'aimes plus tes enfants que les enfants aiment leurs parents, en fait. Alors, je pense que ça peut un peu changer au cours de la vie, ça dépend des relations, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose quand même là-dedans qui est assez vrai, quoi.
Mais ça dépend là. Je pense que, enfin moi, je me souviens avoir été enfant et aimer mes parents à un point où c'était inimaginable.
Mais est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance, en fait? Parce que
vraiment de l'amour. Je me souviens d'avoir une conversation avec mes amis quand j'étais enfant. Je devais avoir 6-7 ans. Et que chacun était convaincu à 100% de certitude que son père était le meilleur père au monde.
C'est
et
vrai.
Que sa mère était la meilleure mère au monde. Tu vois, c'est qu'ils n'avaient aucun défaut, qu'ils étaient parfaits et que tu ne pouvais même pas imaginer comment quelqu'un d'autre pouvait avoir un autre parent et penser que son parent était
bien. Tu les idéalises, mais est-ce que c'est...
C'est un amour clairement immature, tu vois. Mais je pense que... Enfin, moi, en tout cas, à un certain point, je me souviens d'avoir eu ce niveau d'attachement qui dépasse tout entendement, tu vois, et toute logique.
Un autre avantage que j'ai mis, c'est rappel au présent. Je pense surtout à cet âge-là où ils sont constamment présents, en fait. Ils sont très peu dans le futur. En fait, moi, c'est quelque chose que je remarque, c'est que je suis 95% du temps, mon cerveau est dans le futur, en fait. C'est très, très peu en présent. Je travaille, hein, je fais l'habitation, ainsi de suite. Je travaille soi-même. Mais alors, ça rappelle au présent à deux niveaux. Déjà et moi, j'ai déjà un peu ça avec mon chien aussi, en fait. Quand tu vois un chien, il ne réfléchit pas au futur. Tu vois, il est pleinement présent. Et c'est le cas aussi d'un petit enfant, et ça va évoluer. Donc, ouais. Tu as cet aspect-là. Et tu as cet aspect aussi qu'à chaque fois que tu le vois, c'est ce qu'on a parlé, c'est ça transcende un peu tout. Quoi. C'est que ça te ramène au présent. Et ça aussi, ce dont les gens te parlent constamment, c'est... J'ai eu d'ailleurs un très beau poème qu'un de mes anciens poèmes m'a envoyé quand il a appris que j'avais un enfant. C'est que justement, je ne pourrais pas citer le poème, mais ce moment est unique. Et c'est, tu sais qu'avec les enfants, on dit que c'est une progression continue, mais justement, c'est une progression continue, ils vont faire qu'évoluer. Ils ne vont jamais revenir à 2 mois, ils ne vont jamais revenir à 6 mois, ainsi de suite. Quoi. Donc, ça te donne une valeur qui est vraiment spéciale au moment présent. Quoi. Et moi, je l'ai vraiment fortement ressenti.
Ouais, carrément. Surtout, du coup, moi, une fois que ton enfant a passé 1 an, Google Photos commence à te dire, il y a 1 an, c'était ça. Et là, pour le coup, c'est un trip continu, quoi.
Ok.
Tu dis, putain, il y a 1 an, elle était là, la quantité de changement qu'elle a fait, c'est ouf, quoi. Tu te rends vraiment compte que chaque étape, en fait, a duré l'espace de quelques semaines, en fait. Au bout de quelques semaines, elle avait changé, elle faisait plus ça, elle ressemblait plus à ça, elle avait appris à faire un autre truc. Et tu découvres que, ouais, chaque moment, tu construis ton business, hein, une tranche de 3 semaines, tu t'en souviens plus, tu vois exactement ce que t'as fait. Mais là, tu te souviens de chaque élément, enfin, chaque tranche de 3 semaines a été vraiment unique par ce qui s'est passé.
Et d'ailleurs, mais après, d'autres gens me disent que ça fonctionne dans l'autre sens. Mais pour l'instant, moi, la partie enceinte et ensuite les 2 premiers mois, là, ça a beaucoup ralenti le temps aussi parce que justement, tu prends un peu semaine par semaine, tu comptes les semaines. Donc, il y a 3 semaines, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai l'impression que l'année passée et elle est relativement ralentie. Par contre, j'ai compris de façon générale, quand tu es plus âgé, ça s'accélère. Et apparemment aussi, quand tu as des enfants un peu plus âgés, ça s'accélère aussi. Donc, je pense que c'est
Moi,
pas.
ça s'est accéléré de ouf. Je pense qu'en partie, c'est parce que tes journées sont plus remplies avec tous les éléments qui se passent, c'est parce qu'elles changent. Mais vraiment, quand je repense à 1 an, j'ai l'impression que l'année allait passer vraiment en un clin d'œil pour le coup. L'année, tu vois, où elle a vraiment grandi et tout. Je sens que c'était tellement rempli, qu'il s'est passé tellement de choses. Mais ça, j'ai pas la sensation qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect de l'âge aussi. Pas seulement d'avoir un enfant, mais je pense que le fait que d'avoir un enfant où tes journées sont plus remplies, il se passe plus de choses dans ta journée, finalement la journée elle se passe plus vite que quand tu avais finalement tu te retrouvais 3-4 heures par jour à faire des trucs, à regarder des vidéos YouTube, à aller sur Netflix, et finalement tu avais ce côté où tu pouvais un peu plus t'ennuyer, tu vois, enfin, pas vraiment t'ennuyer, mais un peu plus regarder passer le temps, et là tu as l'impression que tu vois, ta journée elle passe beaucoup plus. Pas beaucoup plus vite parce qu'elle est plus remplie d'éléments. Moi, c'est aussi de cet aspect-là que j'ai l'impression de faire. Parce que le travail, ça a toujours passé assez vite.
Moi, du coup, j'ai l'expérience inverse, mais je pense que ça va pas durer éternellement non plus. Un autre avantage aussi que j'ai mis, je pense, qui est extrêmement important, peut-être le plus important d'une certaine façon, c'est multiplier ses identités. Et je pense notamment par rapport à nous, c'est qu'on est quand même très très défini par notre succès professionnel. C'est le truc le plus important à propos de nous. Et je pense que c'est toujours assez risqué parce que c'est un peu mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que ton identité est rattachée à tout succès professionnel. Bah, si tu n'as plus de succès professionnel, tu n'as plus d'identité, quoi. Moi, quand j'étais en économétrie, quand j'étais en, en quand j'étudiais l'économétrie, j'avais fait une sorte de. En fait, c'était une sorte de méta-study. J'étais en licence, hein, donc il ne faut pas non plus exagérer à ce que c'était, mais je m'étais quand même pas lancé là-dedans. En fait, les causes socio-économiques du suicide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en l'occurrence, c'était les hommes de 40 ans à 50 ans. Si, par exemple, ils perdaient leur boulot, il y avait quand même pas mal de suicides, mais c'était peut-être du x10 par rapport à la normale, donc c'est déjà énorme, mais c'est du x10. Si divorçaient, c'était comme x15, donc pareil, c'est énorme par rapport à la moyenne de nouveaux divorcés, mais c'est pas non plus. Mais si divorçaient et perdaient leur boulot, c'était l'ordre de grandeur était x250, quoi. C'était monstrueux. Et en fait, la raison, c'est que toute leur identité s'écroule d'un coup, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient père de famille, mari et salarié, ils avaient de carrière. Et ils perdent tout d'un coup, il n'y a plus rien auquel se rattacher, en fait. Et donc, je pense qu'avoir autant d'identité que possible, donc professionnelle, familiale, même des hobbies, des compétences random, être bon en mécanique, je ne sais pas, n'importe quoi, je pense que c'est une forme d'assurance qui te permet de. Déjà, face aux difficultés de la vie, des risques, toi, si tu perds ton succès, il peut toujours se passer des choses. C'est quand même bien d'avoir ça. Et aussi, d'une certaine façon, je pense que ça te permet de. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer clairement, mais de prendre un peu plus de risques aussi. C'est que si tu veux, tu peux être prendre un peu plus de risques dans ton business parce que tu sais que de toute façon, tu as aussi une famille. Et t'as dans ce sens-là. Après, je ne sais pas si ça marche dans l'autre sens, parce que du coup, est-ce que tu vas prendre des risques avec ta famille? Parce que tu sais que tu as le business derrière, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, et d'ailleurs, tu vois de façon générale, la majorité des. Et tous les gros CEO, ils te parleront de l'importance de leur vie privée, leur vie familiale et ainsi de suite. Et donc, tu as des exemples de gens qui ont des vies totalement déséquilibrées. Et tu pouvais penser, du coup, quelqu'un qui investit toute son énergie dans son boulot aurait un succès. Démesuré comparé aux autres, je n'ai pas sentiment que ce soit spécialement le cas, quoi. Donc, avoir cet ancrage-là, et du coup, je dévie un peu de l'histoire d'identité, mais d'avoir cet ancrage familial-là, ça permet aussi de relativiser les risques que tu prends en termes professionnels. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est un peu mon sentiment
Mais
général.
c'est aussi lié à ce que tu évoquais dans l'épisode précédent sur le bouquin de Seligman, Learn Optimism, c'est-à-dire que si ton boulot c'est toute ta vie, tout problème de boulot généralise, tout d'un coup ta vie c'est de la merde. Si ton boulot c'est la moitié de ta vie et la moitié de ta vie c'est ta famille et que tu as des problèmes de boulot, eh ben, tu as un problème de boulot, quoi. Et c'est contenu dans cette partie et ça ne définit pas l'ensemble de ta vie et tu n'as pas l'impression de. Alors, bah, si par exemple, tu fais que bosser et tu fais une journée et tu as des problèmes de boulot, dis ben putain, j'ai passé une vraie journée de merde. Si tu bosses et après tu passes du temps avec ta famille et ça se passe bien, etc., ben, du coup, tu n'as pas passé une journée de merde, tu as passé une journée cool avec ta famille et pour le coup, niveau boulot, ça n'a pas avancé, tu vois. Donc, du coup, ça te donne un autre terrain de jeu sur lequel valoriser le temps que tu passes ou valoriser tes efforts ou valoriser ton sens de progression à un moment donné. C'est
Même
pas tout.
valoriser ta propre personne, en
Ouais,
fait.
exactement. Ah, voilà, c'était si un jour tu n'as pas été productif, peut-être qu'il y a 5 ans, tu te dis putain, j'ai vraiment gâché ma journée, j'ai été une sous-merde aujourd'hui. Mais si tu as été là pour ta famille, tu dis bon, ben, malheureusement, niveau boulot, j'ai pas super été productif, mais je suis pas non plus en tant que personne un déchet de la société quand même. J'ai été un bon papa aujourd'hui, j'ai lu une histoire et j'ai été me promener au parc, tu vois.
Et après, c'est un autre débat qui est assez intéressant aussi, c'est que. C'est par contre ce qui est contestable, c'est que tu as toujours les gens qui disent que les enfants c'est leur priorité, mais après quand tu regardes dans leur justement à quoi ressemble leur journée, c'est clairement pas le cas. Ça, je pense que c'est un truc intéressant aussi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une. Ouais, je sais pas pourquoi exactement. Parce que même quand je m'étais fait un peu un truc de quelle serait ma journée parfaite, et j'attribuais des points, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout. Comme ça devrait être en fait. Instinctivement, tu mets une cote monstrueuse justement sur la partie de travail. Et du coup, je pense que c'est un peu un. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas et pourquoi c'est une tendance que la plupart des gens suivent. Mais du coup, ouais, je pense qu'il faut aussi faire un effort conscient pour se dire bah, si je dis que la priorité c'est ma famille, bah, il faut aussi que le temps et l'attention correspondent à cette priorité, quoi.
Ouais, mais je pense que de toute manière, il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas passer 100% de ton temps avec ta famille, parce que je ne pense pas que tu sois censé le faire. Mais c'est vrai que tu te sens un peu obligé de dire ta priorité, c'est ta famille, en fait. Il y a aussi ce côté-là. Tu te sens un peu obligé où tu te dis, mais comment est-ce que je peux dire que c'est moins important? Et tu sais intellectuellement, en fait, que c'est le plus important, mais c'est aussi quelque chose qui semble moins urgent, tu vois, que ton travail, par exemple. Donc du coup, tu gravites plus vers des éléments qui sont urgents comme le travail versus des éléments qui sont plus de long terme. Tu parlais aussi dans les notes de reconnecter avec le reste de la famille. Moi, c'est mon principal regret d'avoir un enfant en période de Covid. Tout le reste s'est bien passé, mais impossible de voyager pour aller voir mes grands-parents en France ou de faire venir mes parents ici. C'est mon grand regret sur la première année. Parce que là, c'est pareil, ce temps-là, tu ne le récupères jamais, quoi. Ils pourront jamais revoir ma fille à 6 mois.
Exactement pareil, je suis exactement le même regret que toi. Je suis exactement. Et après, bon, c'est pas spécifique Covid, mais de façon générale, l'avantage d'avoir des enfants, je pense, c'est que. Donc, du coup, tu crées ta famille, donc tu crées ta propre famille. Mais aussi, ça donne une très bonne raison de se reconnecter, d'être plus proche de sa famille de façon générale. Généralement, dès qu'il y a un enfant, tout le monde veut le voir, tout le monde passe du temps avec. Forcément aussi, je pense, ça te crée une relation nouvelle avec tes propres parents, parce que tu te retrouves un peu dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et d'ailleurs, c'est toujours aussi un peu un mindfuck, je trouve, de regarder les photos de famille où tu te vois toi-même ayant 1 an, 2 ans, et tes parents, et moi, c'était après le même âge que moi, ils avaient 26, 28 ans quand je suis né. Et toute ta vie, tu regardes ces photos en disant tes parents, toi, ils étaient âgés, toi. Là, d'un coup, tu te retrouves à leur place, en fait. Il y a un truc qui est assez unique là-dedans, quoi. Et de se rendre compte aussi, parce que tu dis, t'idéalisais tes parents et t'étais persuadé qu'ils avaient tout compris, tu vois. Déjà, de toute façon, à l'adolescence, tu te rends un peu compte que tes parents n'ont pas compris grand-chose. Mais là, tu te dis, putain, en fait, ils étaient comme moi, avec pour moi encore moins d'expérience que moi de vie, globalement. Et tu te dis, putain, c'est quand même. Effectivement, tu m'étonnes que c'est pas été parfait, quoi. C'est assez logique. Ouais, tout ça, je trouve. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu cette réaction maintenant, parce que vu que maintenant, on a tendance à avoir des enfants plus tard, quand je pense que si ta mère t'a eu, c'est le cas de ma copine, sa mère l'a eu à 20 ans, t'arrives, t'as 20 ans, tu peux même pas t'imaginer ça, quoi. Et donc, ça crée une nouvelle relation avec la famille, ça crée une raison de plus de se rapprocher. Du coup, je pense que c'est un avantage globalement.
Un autre point qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'était l'idée de la vision de long terme. Ça change quand même pas mal. Au fil du temps, ma vision s'est augmentée au départ. J'étais vraiment un gars qui pensait à 3 mois et je prenais jamais des bails dans un appartement, des baux, je pense, dans un
Bah, quand on
appartement.
a parlé, c'est l'optionnalité, quoi. C'était, moi aussi, c'était mon focus principal, quoi.
Moi c'était un mois. Un sac à dos. Un mois, je te paye en cash, un sac à dos. Si dans deux semaines, j'ai envie de partir, je pars. Tu vois, c'était la flexibilité totale à ce niveau-là. Et niveau business, c'était un peu pareil. J'avais du mal à me projeter vraiment beaucoup plus loin. Ce qui est aussi très pertinent. Hein, je veux dire, faire des plans à 5 ans quand tu démarres ton business, c'est complètement con. Parce que t'as pas les données et t'as pas le recul nécessaire pour prendre ces décisions-là. Par contre, à un certain point, même dans ton business, il y a des projets qui n'ont pas de cohérence sur le court terme. Enfin, moi, par exemple, je regarde, tu vois, je fais du SaaS maintenant avec Schoolmaker. C'est un projet qui n'a pas de sens sur un horizon de un an ou de un an et demi ou même de deux ans ou même de trois ans, en fait. Pour que ce projet, tu te dises, ça a du sens de lancer ça en parallèle de Marketing Mania, de tout ce que Marketing Mania fait, il faut se dire, OK, ouais, mais dans cinq ans, est-ce que tu veux avoir ça ou est-ce que tu ne veux pas l'avoir? D'un coup, c'est une vision plus long terme que j'ai du coup en partie obtenue grâce à mon business, que Schoolmaker, j'ai commencé à travailler dessus assez tôt. Mais une fois que tu as un enfant, ça transforme encore plus cette timeline-là, puisque dans ton business, aussi intelligent sois-tu et autant de data que tu peux avoir, tu vas vraiment te dire, non, mais dans 10 ans, écoute, c'est ça qui va se passer. Alors que dans 10 ans, tu peux relativement précisément prévoir où est-ce que ton enfant il va être. Ouais. Tu vois à peu près quel âge il aura, quel intérêt il aura, quelles activités il aura, à quoi il ressemblera, quelle taille il fera, tu vois. Si tu me dis de prédire la taille de ma fille dans 10 ans, versus la taille de mon business dans 10 ans, je pense que je serais beaucoup plus précis sur ma fille, rien qu'en regardant une table de statistiques, tu vois. Alors que sur le business, tu te dis, est-ce que dans 10 ans, j'aurais fait x10, ou j'aurais fait x4, ou j'aurais fait x100, c'est impossible. Donc du coup, effectivement, ça change cette vision.
Donc, peut-être ta vision de business aura peut-être changé, alors que logiquement, tes motivations par rapport à ta fille sont toujours là. Toi. Et ça se trouve, dans 10 ans, en fait, le business, tu voudras juste faire un truc tranquille.
Exactement.
Si tu veux pas trop sort, quoi.
C'est exactement ça, quoi. Dans 10 ans, tu sais à peu près quelle sera ta relation avec ton enfant et que tu voudras qu'elle réussisse sa vie, etc. C'est vrai que tu n'as pas de doute par rapport à ça versus le business. Est-ce que dans 10 ans, j'aurais envie d'avoir un truc énorme, j'aurais envie d'avoir un truc tranquille? Ça peut changer.
Et je pense aussi, il y a un autre aspect un peu aussi, c'est que ça te fait de voir... moi, je me dis, tu as aussi envie de te préserver, en fait. Alors, deux aspects, c'est... Moi, je suis devenu beaucoup plus... je ne sais pas si on peut... Froussard, ou je ne sais pas comment on peut le déterminer.
En gros, tu as arrêté de faire des crashs de moto tous les deux semaines, quoi.
C'est ça. Mais en fait, c'est, moi, ça, c'était... En fait, j'avais acheté une motocross. Et du coup, Je faisais des sauts et je chantais des assez gros sauts et j'avais pas trop de peur et je commençais un peu à choper le truc. Ma copine m'annonce qu'elle est enceinte, j'y retourne et là tu commences à faire un peu, tu commences à, tu sais, toi, bah, pareil, t'as une pelote, tu as des pelotes et tu commences à te voir toutes les conséquences possibles, imaginables, toi. Et donc, tu te dis, en fait, je peux pas juste me tuer, toi, je peux pas me permettre de me tuer, quoi. Ouais. Donc, ça change pas mal par rapport à la mort en tant que telle. Avant, tu vois, je me dis, bon, je tente, quoi. C'est... Finalement, j'ai une responsabilité envers moi-même. Quoi. Alors, tu peux dire que tu as une responsabilité envers tes parents, tes proches, ta copine, ainsi de suite, mais ça n'a rien à voir par rapport à ton enfant. Donc, il y a cet aspect un peu morbide-là, ouais. Qui, je pense, est aussi un peu inscrit dans ta biologie, en fait. C'est une certaine logique, je pense. Tu remontes un peu à la biologie. Tu as besoin de jeunes soldats qui vont se tuer comme des débiles pour l'autre tribu. D'un coup, tu as des enfants, il faut que tu te calmes. Même ce qui est assez intéressant, c'est après avoir un enfant, la testostérone chez les hommes baisse pour moins de prise de risque. Et aussi, un autre truc, c'est qu'aussi que tu tapes pas ta femme, apparemment, et que tu ailles un peu moins voir ailleurs aussi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que la testostérone des femmes monte, en fait, pour devenir beaucoup plus protectrice. En fait. Et en gros, c'est un peu l'idée des mamans ours, ou de façon générale, dans toutes les espèces animales, tu sais qu'il ne faut pas faire trop chier une maman avec ses petits. Quoi. Donc ça, c'est une tangente, mais que je trouve assez marrante. Et aussi, au-delà de la mort en tant que telle, il y a aussi un peu le conscience que tu veux te préserver mentalement, physiquement aussi, que tu vois, tu veux te dire, tu commences à faire tes calculs, en fait. Tu dis, dans 18 ans, j'ai pas fait le calcul, du coup, j'aurai 43 ans, et tu dis, voilà, dans quel état je veux être à ce moment-là. Et c'est aussi, je pense, une grosse raison, un peu comme toi, je me suis dit, pourquoi pas le faire plus tôt, c'est que tu as plus d'énergie, tu es en meilleure forme physique, tu as plus de chances de voir tes petits-enfants, ainsi de suite. Donc ça, c'est le faire plus tôt, tu maximises forcément, mais aussi te garder en bonne santé, tu maximises ça aussi. Quoi. Donc ça donne une raison supplémentaire de faire gaffe à toi. Quoi.
Ouais. Finalement, après avoir vendu du rêve, on fait un vrai PowerPoint. Raison, avantage, inconvénient. On va parler des inconvénients. Il y en a un qui est assez évident, c'est tu as moins de temps. Moi, j'ai regardé un peu ce que j'ai fait sur l'année dernière. J'ai continué à pas mal avoir le temps de lire. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup réduit ma consommation annexe de médias, genre tout ce qui était YouTube, séries, etc. Dans ma vie, j'ai toujours regardé pas mal de séries et j'en ai jamais regardé aussi peu qu'aujourd'hui, quasiment plus. Donc, moins de temps. Mais moi, j'ai
Du
regardé
coup, c'est
mes
un
heures de
avantage, là. Tu
boulot.
nous niques le truc, là. On est censé
Bah,
être
j'ai
les
regardé mes heures de
inconvénients.
boulot, elles n'ont pas descendu. Et j'ai à peu près lu autant qu'avant. Donc, voilà. Ah bah après, voilà, tu as moins de temps pour faire les autres trucs, quoi.
Après, il y a le moins de temps quantitatif et il y a aussi le moins de temps en termes de. Tu contrôles un peu moins ton temps, quoi. Tu es un peu sur le calendrier de quelqu'un d'autre. Mais pareil, sache, du coup, on est un peu en train de niquer un truc inconvénient. Mais justement, on parlait de se réveiller plus tôt, ainsi de suite, avoir un rythme de vie plus sain aussi. Ça peut être vu comme être un avantage, quoi, aussi. Être un avantage donc parce qu'après le truc parce que là je suis en train de boucher tout parce que le truc que j'ai mis c'est responsabilité mais on va revenir au même truc c'est que c'est aussi avantage est-ce que toi tu vois vraiment un vrai inconvénient est-ce que vraiment tu as un vrai inconvénient qui a pas sa contrepartie positive à donner?
Ben, moi, il y en a deux qui sont assez théoriques. C'est-à-dire, le premier, c'est j'avais toujours eu ce côté de moi qui me dit un jour, je vais dire fuck et je vais partir genre dans un van aux États-Unis, aller dormir dans des parcs, aller faire un van life ou un truc comme ça, ou faire une tiny house dans la forêt norvégienne que je vais construire de mes mains avec du bois, etc. Mais ça, c'était un. Ça a toujours été une illusion. Enfin, ça n'a jamais été un truc que j'allais réellement faire. C'était plus une espèce de.
Ouais, est-ce que tu pourrais toujours le faire? Tu pourrais toujours partir 3 mois potentiellement, toi, tu peux toujours même le faire en plus. Je sais pas si du coup ça perd un peu de sa fantaisie, mais.
Tu veux dire le faire avec ta famille ou sans ta famille?
Non, sans ta famille, c'est ton gamin, je sais pas, 8-9 ans, tu pars pendant 3 mois, bon, c'est pas idéal, mais c'est pas la fin du monde non plus.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça a permis de fermer définitivement certaines portes. Certains fantasmes de dire je vais devenir pêcheur au bord de la mer et vivre avec 200 dollars, tu vois. Enfin, tu vois, ça a fermé certains fantasmes. Ce
Okay.
n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que ah, c'était un truc qui a été tranché. Moi, il y a clairement l'aspect où parfois je ressentais que. J'avais la frustration de me dire en fait, j'ai monté mon business pour avoir mon temps. Et en fait, finalement, aujourd'hui, j'ai quasiment aucun temps pour faire des trucs annexes. Que bosser, être avec ma fille et lire un peu le livre. Et voilà, tu vois, si j'ai envie de faire un truc à la con, de regarder des vidéos à la con pendant quelques heures, etc., je pouvais le faire à une époque. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Et comme j'avais toujours cette sensation que j'avais construit.
Moi, je dois être excellent, je trouve toujours le temps de le faire, moi. C'est pas un
Okay.
problème,
Tu peux
apparemment.
faire. Voilà. Mais moi, j'ai cette frustration, tu vois, de me dire, je sais pas, de me dire, tiens, je voulais vraiment. Voilà. Avoir le temps et pouvoir passer des heures à faire différentes choses, et c'est plus possible. Ou alors, en tout cas, je prends plus le temps de le faire, ou tu vois, je me suis trop encadré dans des trucs, ou peut-être que c'est peut-être un truc psychologique aussi. Je me sens trop coupable de le faire, donc je le fais pas.
Et après, il y a le trade-off, en fait. Et aussi le trade-off,
C'est moins
c'est moins
intéressant, ouais.
intéressant.
Moins intéressant. Mais voilà, mais je mentirais si je dirais pas qu'il y a des points où j'ai cette frustration de dire, putain, j'ai monté ce business et je suis entrepreneur, machin. Et en fait, si je veux regarder un film, ça va me prendre 3 semaines de le regarder parce que je trouve pas de créneau, tu vois. Je me sens un peu de me dire, putain, ouais, d'autre côté, je suis un peu en galère sur des trucs. Mais d'un côté, c'est vrai que tu pourrais dire que si c'était si important que ça, le film, je trouverais bien le temps de le regarder. C'est juste que, en fait, c'est un truc qui est une priorité de cinquième ordre. Et donc, du coup, je trouve le temps quand je trouve le temps. Mais c'est vrai que c'est une frustration qui est venue. Après, si tu veux, par rapport au reste, tu te dis... So what, tu vois, mon gars, ton film, ta série, on s'en branle au final, tu vois, c'est pas très important. C'est un peu un truc immature, tu vois, c'est un peu un relent de non, mais moi j'ai envie de faire ce que je veux et me coucher tard et bouffer des bonbons, tu vois.
Non, mais je vois exactement ce dont tu parles, ouais. Et même des moments, tu le ressens un peu, tu le ressens pendant 2 minutes, et là, t'as une contrainte qui te fait chier, et du coup, tu as ce moment-là de ressenti de vouloir ta liberté, récupérer ta liberté. Donc, ça, je pense que de toute façon, c'est après commun à tous les parents, je pense.
Ouais. Donc, responsabilité. On a pas mal parlé de la question de la responsabilité, finalement, de choisir une responsabilité pour pouvoir construire du sens dans ta vie. Tu as noté aussi la question de l'anxiété et de l'argent.
En gros, l'anxiété, c'est que ça donne raison de plus de t'inquiéter. Moi, notamment, mon obsession, c'était un peu. J'avais peur qu'il ait un handicap grave, toi. Et ça peut toujours être le cas, hein, toi. Il a que moi. Toi, qu'il soit autiste, et donc, c'est soit très compliqué, toi. Donc, il y a cette forme d'anxiété où c'est. Et c'est pas qu'en business, c'est pas quand c'est trop dur, tu peux lâcher, toi. Là, tu peux pas lâcher, quoi. Et à chaque fois que t'as un enfant, t'as un peu, tu roll the dice, quoi. C'est que les probabilités dans ta faveur, mais il y a le risque. Et si ça arrive, il va falloir l'assumer. Donc ça, moi, c'est un truc qui me posait beaucoup plus avant. Maintenant qu'il est né, en fait, c'est rassurant. Mais moi, c'était un peu ma hantise, notamment qu'en fait, quand la femme est enceinte, ils font plein de tests, ainsi de suite. Donc ça élimine un peu au fur et à mesure. Mais pareil, elle était à la décision. Nous, on était très clair que s'il avait, par exemple, on peut détecter la trisomie, elle avorterait. Tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est peut-être aussi ça qui a changé, qui me rend moins anxieux. C'est qu'à l'époque, quand je me pensais ça, je me dirais, jamais je serais capable d'assumer. S'il naît et il est trisomique, jamais je pourrais gérer. Maintenant qu'il est né et que justement tu ressens cet amour, tu dis, s'il est autiste, on fera avec toi. Ça pas la fin du monde, ça vaut quand même le coup. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est un truc, ça quand même crée une responsabilité, donc ça crée une anxiété. Ça, c'est un truc qu'il faut gérer. L'autre aspect, c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a un minimum d'argent à gagner qui monte un peu. Je pense qu'il ne faut pas l'exagérer.
Tu ne peux plus te faire le trip pêcheur van life avec $300 par mois. Tu ne peux plus aller à Bali et habiter dans une cabane. Quoi.
C'est ça, je me fais toujours le fait avant que j'ai gagné 400 euros par mois, que je vivais au Philippines, j'étais très heureux. Donc je me disais, c'était un peu mon référent.
Mais c'est ça, c'était ton filet de sécurité. Tu dis au pire, moi je m'en fous, je vais bouffer des nouilles sur une petite chaise au bord de la route à Ho Chi Minh dans une chambre et je dépense 400 euros.
C'est ça. Mais du coup, je pense que c'est intéressant de se remettre un truc réaliste. Et moi, je me suis dit que ce serait plutôt maintenant 1000 euros, toi, où ça serait bon. Parce qu'après, ce qui est facile aussi, c'est de se dire et de justifier. Je veux le meilleur pour mes enfants. Et je me rappelle, j'avais rencontré un mec à Bangkok qui travaille pour une grosse multinationale française, qui gagne très très bien sa vie. Et lui m'a dit qu'il ne pouvait pas se lancer parce que c'était un trop risque. Il avait deux enfants, ils allaient en école privée, ça coûtait une blinde. Et fondamentalement, ces enfants, s'ils ne vont pas en école privée, ce n'est pas très grave. Toi. Et je pense d'ailleurs, et j'espère toi, qu'il leur fait pas ressentir à eux une culpabilité de le bloquer. Toi. C'est un autre risque.
Ouais.
Donc je pense qu'il faut rester toi, s'ils vont à l'école publique taille, bon, c'est pas très grave, ça peut être une expérience. C'est, d'ailleurs, tu sais jamais comment les choses vont se terminer. Toi. Ça peut être une expérience unique qui va les amener
ouais, de toute manière.
À quelque chose de positif.
Tu vas aux Philippines, l'éducation, elle n'est pas si chère que ça. C'est en anglais, tu vois.
Mais donc, je pense que c'est important de se mettre un... Et moi, je me suis mis à 1000 euros en faisant un petit calcul, de se remettre un truc où tu dis, là, je serais bien, toi.
Mais 1000 euros en incluant ton enfant, c'est ça?
C'est 1000 euros si en tant que foyer, on gagne 1000 euros par mois. On sera OK, toi. On sera OK.
OK, donc t'as été plus bas que moi. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais attends, il faut qu'on ait une maison avec plusieurs pièces.
Ouais. Après, c'est encore une fois, c'est un peu la... Et c'est effectivement, 1000 euros...
Ici, tu survis, quoi. Tu
survis, c'est ça. Tu crèves pas. Mais même si tu mets à 1000 euros, je pense qu'il est important, surtout, c'est pas de se laisser partir du temps où tu dis, voilà, je paye les écoles privées. Mais en fait, gentiment, je suis coincé, quoi. Je suis coincé, si j'ai plus d'argent, c'est fini. Après, je pense qu'il joue aussi un peu... Là où je suis peut-être un peu dur avec ce mec-là, c'est qu'il parlait des écoles privées, mais il disait aussi que sa femme le quitterait. Donc ça, je pense que c'est un autre problème, tu vois. C'est que si tu commences à gagner moins d'argent et que ta femme te quitte, bon, t'as un autre sujet, quoi. Mais que je peux comprendre qui est problématique. Et je pense qu'il bloque beaucoup. C'est aussi une cause... c'est une autre raison. Mais je pense que c'est comme un inconvénient, c'est que du coup, ton minimum d'argent à gagner, vu que t'es, quelqu'un d'autre dépend de toi, il monte, quoi. Ce qui est assez logique.
Donc après, du coup, moi, j'ai révisé un peu mon scénario. Tu vois, avant, je me dis, tiens, je m'en fous, je vais habiter dans une cabane sur la plage ou dans un truc. Et aussi, moi, je me dis, non, t'inquiète, je vais faire genre un truc, on va prendre une maison, je vais éduquer mes enfants moi-même. En gros, je ne sais pas si tu as vu ce film qui est génial, Captain Fantastic.
Non, je ne crois pas.
C'est Viggo Mortensen qui élève ses enfants dans la forêt et tout. C'est genre,
ah si, ils font de l'escalade,
je pense que ce film...
Ils font de l'escalade à un moment, non? Non, c'est pas celui-là.
C'est possible, mais okay. Je me souviens plus qu'il fasse de l'escalade. C'est pas le
à moi, Gamin se casse la gueule, il se pète le poignet, mais Viggo lui dit
c'est super sévère. Ouais, c'est dans ce film. Et ce film m'a énormément influencé de me dire putain, en fait, tes enfants peuvent être méga heureux, méga épanouis. Tu sais, ils leur filent des vieux bouquins et leur filent Gun, Drums and Steel, le fameux livre d'histoire. J'ai dit putain, ouais, l'enfant, elle a 8 ans, elle lit ça et tout, c'est trop cool. Du coup, je me dis, ouais, au final, tu vois, t'élèves tes enfants toi-même. Finalement, tes enfants élevés toi-même, ils auront une meilleure éducation que les enfants en école privée. Donc, si vraiment tu galères, tu fais ça. Et t'habites dans une maison quelque part où c'est pas cher et tu auras toujours de quoi bouffer et finalement, tu es tranquille. Tu vois, c'est un peu l'équivalent pour moi avec Captain Fantastic. C'est mon film mental de dire, si tout se part en couille, je tire la poignée d'urgence Captain Fantastic.
C'est bon, tu as retenu tout ça, moi, tout ce que j'ai retenu. Enfin, je ne sais pas si à quel moment tu l'as regardé, si c'était déjà enceinte ou quoi. Mais moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est que le gamin, il est en escalier, il se pète le poignet. Ils peuvent redescendre, hein. C'est possible de redescendre. Et son père, il dit non, tu t'accroches, tu lâches rien, on continue. C'est quand même, il a le poignet pété, c'est pas un truc, genre, tu peux juste à la force de ta volonté ignorer. C'est comme si tu te pètes la jambe au foot et on dit vas-y, continue de courir. Quoi. Donc, ça avait fait marrer à l'époque.
Ouais, bah, je conseille ce film à tous les gens qui veulent avoir des enfants. Je trouvais, c'est un bon film. C'est un bon film de papa sur un père et ses enfants dans la nature et tout. Sur ce, on va faire une petite musique de transition et puis on arrivera sur notre section Lifestyle. Donc sur la section Lifestyle, Paul, tu vas nous recommander une pratique spirituelle de gratitude, c'est ça ?
C'est ça. En fait, c'est un truc que j'ai marqué. Alors, parce que moi, je pense que c'est parce que je vends des objets physiques et je trouve qu'il y a une non-reconnaissance des gens de tout l'effort qui va pour faire ces objets, en fait. Et notamment vers les objets pas chers, en fait. Parce que justement, pour arriver avec des objets pas chers qui remplissent une fonction, il faut beaucoup d'ingéniosité pour amener le prix aussi bas, ainsi de suite, à tous les niveaux, toi. Et notamment, je me rappelle, ça m'a marqué quand j'avais vu un stream of gratefulness où tous les gens rentraient, ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Donc forcément, ils sont reconnaissants pour la famille, pour leur repas et ainsi de suite, ce qui est logique, hein, c'est quand même un truc important, mais très rarement reconnaissance pour les objets, ou si ces objets, c'est que les objets nobles, en fait. Alors que justement, si tu as une souris à côté de toi, une souris à 4 euros, bon, déjà, si tu fais un peu le déroulé, tu te dis comment l'humanité est arrivée à créer cet objet, c'est incroyable. Si tu mettais même le mec le plus intelligent de la planète, tu dis je te donne 500 ans pour arriver à ça, il n'y arrivait pas. Donc ça, c'est déjà un truc un peu incroyable auquel penser. Mais aussi, il y en a quand même si c'est un objet pas cher et peut-être pas incroyablement durable, ainsi de suite, il y a quand même beaucoup d'ingéniosité humaine des individus à la logistique, les ingénieurs qui ont fait le produit, les personnes qui contrôlent la qualité, les personnes dans la chaîne d'assemblage, qui ont quand même mis du leur pour arriver à ce résultat, quoi. Et je trouve que les gens prennent ça pour acquis. Et ce qui est marrant, c'est que pourquoi les gens sont reconnaissants pour leur nourriture, mais pas pour justement les objets du quotidien. Je pense parce que pour une nourriture, tu t'imagines vraiment la personne qui est dans les champs. Il y a un peu, je pense que c'est aussi un peu lié à Dieu qui te donne le pain de ce jour, ainsi de suite. Mais je pense que c'est, voilà, si vous manquez un peu de choses pour lesquelles être reconnaissant, regardez autour de vous sur votre bureau, même des objets qui vous paraissent insignifiants, c'est incroyable qu'ils existent et qu'ils vous soient accessibles. Et encore une fois, même la question de prix, faible et une certaine, pour moi, une certaine noblesse, quoi.
Ouais, c'est une idée assez intéressante. Moi, je veux aussi, il y a quelque chose qui est adjacent à la spiritualité. Est-ce que tu as entendu parler d'un bouquin qui s'appelle Surrender Experiment?
Ça me dit quelque chose, donc je sais pas, mais ça me dit quelque chose, le titre.
Donc, c'est l'histoire d'un gars qui raconte sa vie, c'est en gros sa biographie, quoi, qui s'appelle Michael Singer. Donc, c'est un gars qui est dans les années.
Untethered Soul. Untethered Soul. Si, je vois du coup.
Ouais. Même gars, qui est un espèce de hippie qui fait du yoga et décide d'acheter un terrain en Floride, de construire sa propre maison et de faire du yoga toute la journée. Et en fait, son grand trip, c'est qu'il va surrender, donc il va se donner à ce que la vie lui apporte et à l'idée que la vie et l'univers lui apportent des trucs et il suffit juste qu'il soit ouvert. Et en fait, tu dis, mais ça n'a pas de sens comme philosophie de vie. Mais en fait, de fil en aiguille, son histoire, c'est un truc de ouf. Donc, il commence à être tout seul sur son terrain, les gens viennent, et donc du coup, il construit un énorme temple de méditation, et les gens lui parlent un jour de programmation, donc il commence à dire, bah tiens, je vais programmer. Il devient programmeur dans les années 80, et ensuite, il trouve une idée de monter un projet, et donc du coup, il monte une boîte. Cette boîte, de fil en aiguille, se fait coter en bourse. Il devient directeur d'une boîte cotée en bourse. Et hein, tout le temps, ce mec, c'est un hippie avec une queue de cheval et tout. Il est coté en bourse.
Ce qui est super intéressant après, c'est que dans le bouquin que j'ai lu, moi, Untethered Soul, il ne mentionne pas du tout de ça. Ce qui est quand même incroyable parce que justement, quand tu as un résumé comme ça, tu te dis, bah, justement, tu t'en parles, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Parce que le mec de
l'univers personnel... Ce bouquin-là a été écrit assez tôt, en fait, dans sa carrière. Okay. Il dit un jour... J'ai eu une opportunité d'écrire un livre. Donc, du coup, j'ai passé 5 ans à écrire un livre. Ce livre est devenu un méga best-seller. Le bouquin que moi j'ai lu, il a été écrit en 2015 et je pense que l'autre a été écrit plus tôt. Mais c'est juste l'histoire par rapport aux prémices de base de la personne et de la manière dont il se décrit et juste démentiel, tu vois, que tout ça se produise. Et c'est pas, tu vois, c'est genre un hippie qui a fait des trucs cool de hippie. Et le mec, il a fait une boîte cotée en bourse pour de vrai et il a monté ce truc-là. Et il te dit, bah, en fait, la manière dont je recrute des gens, c'est tout d'un coup, j'ai besoin de quelqu'un et l'univers présente quelqu'un. T'as l'impression qu'il recrute des gens juste parce qu'ils se sont pointés à son temple et dit, bah, tiens, je vais recruter cette personne. Et au final, cette personne devient un employé de ouf, tu vois. T'as vraiment l'impression qu'il suit son mode de
fonctionnement. Par contre, moi, j'ai vraiment beaucoup vécu ça, quoi. Moi, j'ai beaucoup vécu ça, des gens totalement random, c'est totalement improbable. Ouais.
Qui se présentent comme ça, tu les engages et boum, c'est génial.
Et j'ai recruté un mec en Chine. En gros, il pensait à moi qu'on avait problème de cash, alors qu'en fait, on n'avait pas de problème. Il pensait qu'on avait plus de cash pour payer les commandes. Et le mec, il a hypothéqué la baraque de ses parents, quoi. Et il a pris un emprunt à son nom. Et je l'ai rencontré une fois, on ne parle pas la même langue. Et donc, il s'est mis un risque monstrueux. Et tu te dis, c'est quoi, d'où il sort cette personne, quoi. Pareil, j'ai une fille incroyable, une indienne à Chiang Mai. Pareil, totalement random qu'elle se retrouve à Chiang Mai, une indienne. Elle a été totalement incroyable, quoi. Donc, j'ai pas mal de cas comme ça je pense qu'il y a un côté un peu. Plus qu'un côté un peu. Il y a un côté aussi que, forcément, plus tu maximises ton exposure, ton. Comment dire ton. Comment dire, tu maximises ta surface de contact,
sa surface de chance
aux opportunités, bah, et ça, donc il se passe des choses, hein, c'est un peu comme ça. Mais moi, j'en ai fait expérience de recrutement assez improbable, pile au bon moment. Ça a été le cas pour mon cas aussi.
Ah, tu as lu toute sa vie comme ça, de hippie sur un terrain en Floride à voilà. Enfin, le bouquin est bien écrit. C'est un autre, tu vois, c'est un bouquin de spiritualité, mais sous l'angle de la vie d'une personne qui a une vie assez mouvementée et qui suit sa philosophie et te raconte ce qui se passe. C'est vraiment cool, j'ai vraiment accroché. Même, tu vois, sans te dire, c'est une leçon de vie incroyable de s'ouvrir à l'opportunité. Rien que sur son histoire, c'est vraiment intéressant de voir les hauts et les bas du truc. Et j'ai regardé le bouquin Untethered Soul que tu as mentionné. En fait, il est sorti en 2007. Donc, en fait, pas si tard que ça. Il avait déjà accompli énormément de trucs quand il l'a écrit, en fait.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tous les bouquins de développement personnel, généralement, tu as tout le premier chapitre qui est consacré à dire pourquoi le mec est incroyable. Alors que c'est vrai que maintenant que j'y pense, l'autre bouquin, il se mentionne à aucun moment. Il mentionne aucun... Ouais. Donc c'est assez intéressant parce que c'est rare dans les bouquins de développement personnel, quoi, de pas dire de quelle position tu parles, quoi. Alors que là, il aurait eu une position assez incroyable de laquelle parler, quoi.
Ouais. Donc, ouais. Finalement, on va terminer comme toujours par une petite anecdote, Paul, sur l'histoire de. Bah, je te laisse la raconter pour ne pas spoiler.
Pas spoiler. Ouais, je vais parler d'un tour de magie incroyable. Donc, si vous avez été à Vegas ou autre, c'est rien à voir avec ce que vous pouvez voir parfois dans un bureau à Hong Kong. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment, il y a un côté un peu ritualistique. Il y a un rituel. C'est en fait, tu es dans une petite pièce, tu parles à une femme et en fait, elle t'arrange des documents en ligne comme ça sur le bureau. Et après, tu as un mec, la quarantaine, un peu bedon, qui arrive. Il tient un tampon magique. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive. Il tamponne assez bien quand même. Il faut reconnaître que c'est quand même, tu sens qu'il y a une certaine expérience, une certaine qualité du tampon. Il tamponne un papier, il tamponne un deuxième papier, un troisième papier, un quatrième papier, un cinquième papier. Cinq papiers, tu multiplies ça par 400 euros, boum, 2000 euros, il a gagné 2000 euros, il est ressorti, il est parti, c'est fini, quoi. Et donc, je trouve que la profession de notaire, c'est totalement sous-côté. Je suis sûr qu'il a un petit kiff à chaque fois, quoi. Le mec, il se pointe, il n'a rien fait, il tamponne cinq fois. Boum, c'est bon, c'est 2000 euros qui rentrent. J'ai du mal à imaginer une profession qui fonctionne de la même façon, quoi. Et surtout, en plus, qui est aussi... Et c'était le notaire le moins cher, quoi. En plus, c'est un truc, c'est une guide des notaires dans tous les pays. Donc, ils mettent des palais sur les prix. Donc, en fait, tu peux économiser que dalle. Il n'a pas checké les documents du tout. Donc, c'est son assistante qui a zéro certification, qui a checké, qui a tout préparé, qui doit te payer 20 euros de l'heure. Il se pointe, il tamponne, c'est réglé, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Toi, je me dis, j'ai raté ma vie. Je pars dans mon truc, je me fais beaucoup trop chier. C'est pour que je devienne notaire en compte, quoi.
C'était ça l'opportunité de business qu'on aurait dû donner dans l'épisode précédent, devenir notaire.
Ça, devenir notaire, il y a un potentiel, quoi. C'est ça. Alors, je ne sais pas à quel point, parce que j'exagère un peu, parce que je pense que c'est une... tamponner des trucs pour les certifier, je pense que ça fait partie justement des trucs où il y a le moins de travail. Mais je sais que même les gens qui vendent des biens immobiliers disent que le rapport entre ce que la personne est payée, le niveau de compétence et le niveau d'effort est totalement décorrélé, quoi.
Bah, c'est un monopole légal, quoi, comme tous ces éléments-là où tu es coincé. Hein. Je vais t'en dire un autre. Le traducteur assermenté de l'ambassade de France en Thaïlande, lui, c'est pareil, tu vois. Il te traduit trois lignes pour 40 euros qu'ils n'avaient pas besoin d'être traduites parce que voilà, c'est un truc légal, tu as un monopole légal, tu peux faire les prix que tu veux, et les gens sont obligés de les payer, quoi.
Et moi, je pense qu'en plus, quand ça s'est passé, je l'ai vu aussi que c'était l'opposé de ce que je faisais. Parce que, et peut-être, toi, c'est un peu moins le cas. Mais moi, en fait, je suis globalement dans l'électronique, donc une des catégories les plus compétitives au monde. Dans une des marketplaces les plus compétitives au monde, Amazon, un truc totalement transparent. Toi, tu peux voir combien les gens vendent, ainsi de suite. Et donc, je vous dis, c'était un peu le diamétralement opposé, quoi. C'est un truc totalement ouvert, en concurrence avec le monde entier. Et je pense qu'il y a peut-être, du coup, si on un peu le business à faire, il y a peut-être probablement d'ailleurs, je le sais, il y a beaucoup de business, je pense, nichés, alors moins protégés, parce que tu n'as pas ce genre de protection. Par exemple, un truc qui m'a marqué, c'était j'ai rencontré un couple d'Australiens qui faisait 5 millions par an, à quelque chose de 60% de marge, en vendant des ciseaux pour professionnels en Australie. Donc des ciseaux pour professionnels en Australie. C'est juste ça, ils avaient trois références. Ils vendaient qu'en Australie, qu'aux coiffeurs professionnels, quoi. Ils faisaient 5 millions. Et je pense, du coup, il y a vraiment plein de trous comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ces trous-là, je crois que sa mère était coiffeuse à Ouga. Donc, je pense que ce trou-là, je pense que beaucoup de gens les trouvent généralement en travaillant pour une boîte. Et tu remarques des gaps dans le marché. Et ouais. Tu t'insères dessus et ensuite, tu essaies de te faire un peu discret, quoi. Mais je trouve ça aussi assez intéressant. Et tu n'entends pas parler parce que c'est le genre de truc où justement tu n'as pas envie d'en parler. Moi, je peux parler de mon business. Venez me concurrencer, bon courage, toi. Pareil, toi, tu veux parler de ton business. Bon courage pour venir te concurrencer, quoi. Et justement, tous les business qui ont besoin soit d'une protection, donc les notaires, soit de rester discret, c'est généralement qu'il y a une sorte de distorsion qui fait le business en tant que tel, quoi. Par contre, c'est vrai qu'en fait, je pensais ressentir un peu du dégoût, de la colère à ce qu'il me soutire 2000 euros comme ça, mais c'était plus une forme d'admiration, toi. C'était plus... putain, toi, ton tête de player et de game, quoi. Il y a un peu de ça. Ouais.
Sur ce...
c'est là. Sur les amis, sur quelque chose, là, faut que tu...
Non, c'est ça. Tu finis toujours très bien les épisodes. Les amis, on se quitte. On se retrouve dans un an, peut-être. C'est pas une promesse. Un jour, on reviendra... dans votre flux RSS, restez abonné, laissez-nous une évaluation étoile. À la prochaine.
À la prochaine, bye bye.